Bien, je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens. On a regardé pas mal de fois le chapitre 2, nous allons aller au chapitre 4 d'Éphésiens. Et nous allons lire les 16 premiers versets. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et c'est la parole de Dieu. Nous allons donc regarder aujourd'hui ce passage et voir la croissance de l'Église. Et la croissance de l'Église, c'est une affaire de tous. De tous. Alors nous avons passé du temps, comme je l'ai dit, à regarder avec Philippe le chapitre 2 d'Éphésiens. Même avant, je crois, c'était le chapitre 1 aussi, il y a longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir cette croissance de l'Église, mais il n'y a pas de croissance de l'Église sans Église. Et il n'y a pas d'Église sans l'œuvre que le médiateur envoyé de Dieu a fait pour le salut de ce peuple. Donc on est enraciné dans cette œuvre. Ici, le passage que nous avons lu et qu'on se propose d'examiner, c'est un des grands passages de l'unité de l'Église. Il est donc un peu étrange de regarder un passage sur l'unité de l'Église et de parler de la croissance de l'Église. Or, les deux sont indissociables. Une Église qui n'est pas unie ne grandit pas. Et une Église qui grandit, c'est une Église qui est de plus en plus unie. Il ne peut pas y avoir de croissance dans la désunité. Et l'unité exige, entraîne, produit la croissance. La question de la croissance de l'Église est importante. pratiquement tous les responsables d'église, la recherche. Très souvent, quand vous rencontrez quelqu'un d'une autre église, une des premières choses que vous voulez savoir est la taille de l'église. Et je dois dire que par réaction contre ça, j'ai tendance à éviter de faire ça. Mais il faut que j'exerce une force sur moi, parce que je veux savoir quel genre d'église vous avez. Est-ce que c'est une grande église, petite église, et ainsi de suite. Et on a chacun des anecdotes à ce sujet-là. Une grande partie des enseignements dispensés aujourd'hui dans les institutions de formation théologique concerne et vise la croissance de l'Église. Et c'est quelque chose qui peut affliger d'une certaine manière, parce que ça n'est pas vraiment le centre. La question de la croissance de l'Église a même une école de pensée. Alors, on ne la connaît pas trop en français, mais il y a une pensée théologique, toute une école de pensée qui s'appelle la croissance de l'Église, qui est un peu passée de mode aujourd'hui, mais qui a encore ses adeptes. Malheureusement, une grande partie, très grande partie, trop grande peut-être, de cette recherche concerne les mécanismes pour accroître le nombre de personnes qui sont sur une liste de membres. Aujourd'hui, en France, il y a toute une dynamique pour enseigner sur la liste de membres. Ça vient de certains enseignements. Alors, la liste de membres n'est pas anti-biblique, loin de là. L'enseignement qui est donné utilise des arguments bibliques. À savoir s'il est biblique, c'est encore autre chose. Parce que c'est là le point focal de cette discussion. Or, cette dimension est totalement absente de tous les passages de l'Écriture au sujet de la croissance de l'Église. C'est intéressant à remarquer. Absolument absente. L'Écriture parle toujours de ce qui se passe après que les gens se soient joints à l'Église. Donc, ce n'est pas une question de mécanisme, comment on fait venir les gens à l'intérieur. La croissance de l'Église selon la parole de Dieu. Nous voyons donc qu'il y a un grand écart entre ce qu'enseigne la parole inspirée et révélée de Dieu et ce qu'on trouve très souvent parmi les hommes, et même parmi des milieux qu'on connaît, peut-être même dans notre propre tête. Que voulons-nous suivre? Telle est la question alors que nous abordons ce passage. Qu'est-ce que nous voulons qui nous guide vraiment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que c'est les idées des hommes? Voilà la question. Un des derniers points à aborder dans cette introduction concerne le but de la croissance de l'Église voulue par Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche quand il vise à faire grandir son Église? Pourquoi Dieu veut-il que son Église grandisse? Et pourquoi donne-t-il tant de conseils, tant d'enseignements, tant d'exhortations à la croissance? Qu'est-ce qu'il cherche? Et la première réponse est que la croissance de l'Église n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Nous devrions être au clair à ce niveau, parce que même dans le domaine naturel, c'est ce qu'on voit, sans arrêt. Le petit bébé grandit, mais est-ce qu'il grandit sans qu'on lui apporte des soins, sans qu'on lui apporte la nourriture? C'est la première chose à laquelle on pense. Et bien entendu, la réponse, c'est non, bien sûr. Le petit bébé a besoin de nourriture, il a besoin d'apport de façon à grandir. Il en est de même de l'Église. Il en est de même de l'Église. Dieu lui-même, par la bouche de l'apôtre, nous indique quel est le but qu'il recherche. Regardez au verset 1. « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Voilà le but. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a un passage parallèle dans Colossiens. Colossiens, c'est, si on veut souvent comprendre soit Éphésiens, soit Colossiens, on va dans l'autre épître. Ce sont des épîtres assez parallèles, en fait. Donc, le passage parallèle, c'est Colossiens 1, 10, donne une explication. Regardez, on va commencer au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est la croissance. Pourquoi ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu a à nous dire. Donc, quel est le but ? C'est afin qu'on croit, qu'on grandisse, qu'on ait la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. Mais avez-vous remarqué une chose étonnante ? En tout cela, il n'est fait aucune mention de ce qui se passe en dehors de l'Église. On ne parle pas d'évangélisation, là. Si tant est que ce mot peut être utilisé. L'Église qui a le plus évangélisé dans l'histoire de l'Église se préoccupait avant tout de sa croissance organique. Ce qui est intéressant. Et nous avons besoin de le souligner parce que c'est tellement rare. Et est-ce que nous aurions ici la réponse à un des problèmes majeurs de la faiblesse de l'Église moderne? C'est encore une question. Le but de Dieu pour l'Église apparaît aussi dans les versets qui précèdent notre passage. Pourquoi l'Église doit-elle grandir? Verset 16, « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » Verset 16, « Que donne-t-il d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur ?» Et souvent, on a dit ça un peu que dans le domaine du salut, quand on parle à des gens qui se posent des questions au sujet du salut, souvent la question vient, « Ah, mais qu'en est-il de ceux de ma famille qui sont déjà décédés ? Ils sont donc en enfer, d'après ce que vous dites. » Alors, il y a un moment où on dit, où il est bon de dire, quand on regarde le salut, il y a un passage qui est très égoïste, dans le sens qu'on va regarder pour toi avant de regarder pour d'autres choses. Et c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Dieu œuvre de façon à ce que le croyant puisse être fortifié, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. À quoi ça sert de faire venir des gens dans une église qui est presque un hôpital plutôt qu'autre chose ? Le but principal de Dieu pour son église est une union entre elle et lui qui soit d'une parfaite intimité et fondé sur la vérité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se focalise sur Dieu, c'est ce qu'on trouve encore dans les paroles de Jésus lui-même, en Jean 4, quand il parle à la Samaritaine. La Samaritaine lui dit, mais est-ce qu'on adore ici ou est-ce qu'on adore là ? Et il lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit et en vérité. Oui, c'est-à-dire dans l'union vivante que Dieu donne grâce à l'œuvre de Christ par son esprit et la vérité, c'est-à-dire sa parole. La parole qui rend libre, la parole qui libère, la parole qui nourrit et qui fait grandir. L'Église doit grandir pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ça, c'est une chose fondamentale. Pourquoi est-ce que nous nous réunissons le dimanche matin, que nous ouvrons la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que ces cantiques, ces passages sont choisis? Afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Et de mieux en mieux. Et quand elle fait cela, quand l'Église adore Dieu en esprit et en vérité, elle est d'une grande puissance dans le monde. L'histoire de l'Église nous l'enseigne. C'est ce que nous voyons avec l'Église primitive. Ce sont des gens qui étaient concernés à se réunir pour se mettre placés sous l'enseignement des apôtres pour partager le pain, pour prier, et ainsi de suite. Et quel est le témoignage des gens du dehors par rapport à cette église? Ce sont des gens qui ont bouleversé le monde, qui ont mis le monde sans dessus dessous. Et bien entendu, le cœur de tout chrétien va vibrer avec ça. Et c'est ce qui se passe, par exemple, avec cette femme samaritaine qu'on vient de mentionner. Elle n'a aucune connaissance théologique, rien. Sauf que le Seigneur s'est uni à elle d'une manière mystérieuse, étrange, en fait. Quelque chose de personnel, d'intime, qu'on ne voit que par les effets. Il s'est uni à elle, il s'est révélé, et il est la vérité, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à Sichar pour annoncer le Christ, de sorte à ce que les autres viennent vers lui. Mais c'est une femme qui déborde de l'amour du Seigneur. Donc on a pris un peu plus de temps pour cette introduction. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est important de se recentrer sur la parole de Dieu pour voir ce que cette parole nous dit. Qu'est-ce que nous allons trouver dans ce passage? Alors, tout d'abord, on voit un entrelacement de l'unité avec la croissance, comme je l'ai indiqué précédemment. Nous voyons aussi que la croissance de l'Église, et donc l'unité de l'Église, vient de Dieu. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas des trucs. Mais dans ce cadre, nous allons voir deux choses majeures. Premièrement, l'Église est l'agent de la croissance du croyant. Deuxièmement, le croyant est l'instrument de la croissance de l'Église. Et ça, c'est vraiment la beauté de tout ce passage. C'est dans l'Église que le croyant reçoit ce que Dieu dispense pour sa croissance. Et là, on pense tout de suite à cette exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux, ne méprisez pas, n'abandonnez pas vos assemblées, votre assemblée, le fait de vous assembler. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu dispense la force, la nourriture qui permet de croître. Et c'est alors que chaque croyant grandit, grâce à ce qu'il reçoit de Dieu, que l'Église grandit, que l'Église se fortifie et que l'Église s'édifie elle-même dans l'amour. Et donc, la première chose que nous voulons garder, c'est l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église, qui est le secret de la croissance. C'est la première chose que l'apôtre dit au sujet de l'Église. Elle est unie. Ou plutôt, l'Église est une. C'est pourquoi Dieu exhorte son peuple à être ce qu'ils sont. Soyez un. Soyez unis. Pourquoi? Parce que vous êtes unis. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Premièrement, que l'unité de l'Église est quelque chose qui existe. Trop souvent aujourd'hui, on voit la désunité. On a tendance à se focaliser sur la désunité. Et donc, la pression est mise dans des efforts à faire de façon à accomplir l'unité de l'Église. Non, l'unité de l'Église est quelque chose qui existe. Regardez au verset 4. Il y a un seul corps. Ça n'est pas « il faut faire un seul corps ». Il y a un seul corps. C'est déjà une réalité, parce que Christ l'a accompli. Deuxièmement, Dieu exhorte ses enfants, versets 1 et 2, à marcher en toute douceur et humilité. C'est-à-dire que c'est ainsi que l'unité se manifeste. L'unité qui existe. Les croyants doivent vivre dans l'unité parce qu'ils sont un. Et souvent, on est dans la famille, surtout avec les plus petits-enfants, on dit, mais il ne faut pas battre ta sœur, il ne faut pas battre ton frère. Pourquoi? Parce que vous êtes frères, n'est-ce pas? C'est ça. Vous n'êtes pas chien et chat. Si c'était chien et chat, bon, la bataille, elle est normale, hein? Ce sont deux races qui se bagarrent. Mais non, vous êtes frères. Alors, voilà les croyants doivent vivre dans l'unité parce qu'ils sont un. Ils ne sont pas appelés à fabriquer ou à forger l'unité dans l'Église. Mais, regardez au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité. C'est quelque chose qui existe. Alors, comment est-ce que cela s'accomplit? Premièrement, en toute humilité et douceur. Celui qui est dans l'Église, qui fait partie du peuple de Dieu, il y est parce que, bien que pécheur coupable et condamné devant Dieu, il a reçu la grâce. Il a été gracié, c'est-à-dire que Dieu ne le tient plus pour responsable de ses péchés. Une chose qui est effrayante pour le religieux. L'orgueil et la défense de ses droits n'ont plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce que celui qui est dans l'Église, il se repose désormais sur Christ. Et donc, l'Église peut manifester toute cette humilité, cette douceur. Deuxièmement, comment est-ce que cette unité doit s'accomplir? Avec patience, vous supportant mutuellement. Celui qui est dans l'Église doit se connaître. Et il se connaît en plongeant ses regards dans la loi parfaite. Et en se connaissant, il ne sera jamais trop dur envers les échecs des autres, envers les lenteurs des autres. Parce qu'il sait qui il est. Lui-même bénéficie et a bénéficié depuis longtemps, même avant de connaître Christ, il a bénéficié de la patience de Dieu, de la longanimité, ce vieux mot qui est très beau, la longue patience de Dieu, qui a attendu. Troisièmement, comment est-ce que ça s'accomplit ? En conservant l'unité de l'esprit. Celui qui est dans l'Église y est parce que l'Église l'a fait entrer dans ce qui est déjà fait. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont ensemble qu'une Église se crée. Non, l'Église existe. C'est simplement une assemblée locale qui se crée. Y a-t-il plusieurs rédemptions pour qu'il y ait plusieurs Églises ? Non. Seul Christ a accompli la rédemption. Quatrièmement, comment est-ce que ça s'accomplit ? Par le lien de la paix. Comment l'Église des rachetés existe-t-elle ? Parce que Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La vie dans l'Église n'est rien d'autre que la vie qui coule de la paix, de la croix. Et de cette croix coule la paix. Pourquoi ? Parce que Dieu est satisfait. La justice et la sainteté de Dieu sont satisfaites, reçoivent ce qu'elles exigent. Et Dieu est au repos maintenant. Il n'y a plus de colère. C'est par le lien de la paix. Paul montre ensuite quelle est la constitution fondamentale de l'Église. Et il utilise pour cela la base de la Trinité. En fait, toute la lettre est comme cela. La vie et le salut de l'Église dépendent de l'être tout entier de Dieu. Premièrement, l'Esprit est envoyé et, appelant chacun des élus, il forme un seul corps. Il le fait en appelant chacun à une seule espérance. Oui, maintenant il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Non, il y a tous ceux qui ont la même espérance. Et le juif se détache de cette espérance et donc il n'est pas dans l'Église. Parce qu'il se pose sur sa circoncision, il se fonde sur son pédigré, le fait qu'il peut remonter jusqu'à Adam à travers ses ancêtres. Et en faisant cela, il change d'espérance et il n'est pas dans l'Église. Mais le juif, tant que le non-juif qui se place sur cette espérance qui est en Christ, il est placé dans l'Église. Et c'est l'Esprit qui le fait. Est-ce que nous allons donc, par notre insistance sur nos droits, est-ce que nous allons donc déchirer ce que l'Esprit de Dieu a fait ? Y a-t-il plusieurs esprits ? Deuxièmement, Le seul Seigneur qui a été donné pour le salut a ôté la porte. Il a ôté la condamnation qui séparait Dieu du péché, du pécheur. Et il a donc ouvert la voie pour une seule fois, un seul baptême. Et là, bien sûr, le baptême, l'image du baptême est utilisée par ce fait d'être en Christ, enseveli en Christ, mort au monde. Le monde est mort à celui qui est en Christ. Vous voyez, Christ a enlevé cette condamnation. Il a renversé le mur de séparation. Alors bien entendu, ce mur, Paul utilise l'image du mur qui était dans les parvis du temple, entre les gentils, les nations et les juifs. Mais il parle d'un autre mur de séparation. C'est ce mur qui en fait était un voile dans le temple, entre Dieu et les pécheurs. On ne pouvait pas entrer. On ne pouvait pas entrer. Il fallait un substitut, il fallait un sacrificateur pour cela. Eh bien maintenant, le seul Seigneur qui a été donné pour le salut a renversé tout ça. Troisièmement, celui qui est à l'origine de tout cela est le seul Père, nous dit Paul là. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu, en trois personnes, mais un seul Dieu. C'est pourquoi l'Église est une et unie. Et en fait, je pense que le choix de la lecture du chapitre 17 de Jean n'était pas tout à fait innocente, n'est-ce pas? Mais on voit ici que comment le souverain sacrificateur, hein, c'est la prière sacerdotale, n'est-ce pas? Donc il se tient au nom des siens, mais vous avez vu comme quoi il y a cette symbiose entre le Père et le Fils, bien qu'ils soient distincts, mais extrêmement unis. Et c'est cela que nous avons ici. Il n'y a pas trois dieux, un seul, et donc l'Église est une et unie. Qui est celui qui veut déchirer le corps du Fils de Dieu, sinon celui qui n'a pas connu Dieu, et donc qui n'est pas dans l'Église? Donc on a vu assez brièvement l'unité dans l'Église, qui est un des centres de ce passage. Maintenant, voyons la diversité dans l'Église. Parce que vous avez remarqué qu'au verset 7, il y a ce « mais ». Mais. Donc on va aborder un autre aspect, une autre facette. La diversité dans l'Église. L'unité dans l'Église, la diversité dans l'Église. S'il y a un seul corps, c'est-à-dire un seul temple, c'est une autre image, il y a aussi une multiplicité de membres. Et c'est un assemblage de pierres. Ce sont des pierres vivantes, mais elles sont chacune individuelles. Contrairement à ce qu'on peut voir dans un groupe d'hommes dans le monde, l'Église de Dieu ne se compose pas d'éléments tous identiques. On a un peu cette image où on pourrait dire on n'est pas tous des saucisses. Alors, vous savez, quand on mange... on fait le barbecue et les saucisses, est-ce que je vais prendre celle-là ou celle-là? Elles sont toutes pareilles. Et souvent, c'est pratiquement le même poids. Alors, dans le monde, c'est un peu ce qui se passe. Mais dans l'Église, c'est exactement le contraire. Il y a un seul Dieu et une seule Église. Oui, mais à chacun. À chacun. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent à se définir par leur ressemblance. Si vous allez à un match de football, vous allez voir exactement dans quel côté vous êtes, parce qu'il y a tout un côté qui va être bleu, l'autre côté rouge. De plus en plus, les gens qui sont pour des causes, qui veulent faire des manifestations, des défilés, des choses comme ça, alors maintenant, la grande mode, c'est d'avoir des t-shirts de même couleur. Et puis, si vous commencez à poser des questions aux gens qui sont dans une même association, un parti politique ou quelque chose, une association, très souvent, le langage est le même, mot pour mot. Les hommes, de plus en plus, cherchent à se définir par un trait commun. Et il y a certainement des traits de grande ressemblance entre les vrais chrétiens. Et on peut les relever quand on lit la parole de Dieu. Mais l'Église de Christ se caractérise par sa diversité dans l'unité. C'est un corps qui est pratiquement alien à ce monde. Et c'est ce qui fait sa richesse. C'est ce qui fait sa richesse. Tout le monde dans l'Église n'est pas œil. Parce que si tout le monde était œil, où serait Louis? Un corps qui est sourd, c'est un corps qui est handicapé. Or, l'Église de Dieu n'est pas handicapée. Quand elle fonctionne, elle forme un solide assemblage qui s'édifie dans l'amour. Mais à chacun est donné selon la mesure de Christ. Comment cette diversité se manifeste-t-elle et comment fonctionne-t-elle? Chose importante. Alors, premier sous-point, les dons. Les dons. La première chose que Paul dit dans ce registre est qu'aucun des membres de Christ n'amène quoi que ce soit par lui-même. Alors, c'est quelque chose d'assez humiliant, spécialement aujourd'hui. Mais c'est important de le dire, car on pense souvent, même sur le plan naturel, qu'un don, c'est quelque chose qui dort au-dedans de moi, une prédisposition qu'il faut que je mette en œuvre. Alors, certes, dans l'Église, c'est dans l'énergie de l'Esprit, mais c'est à moi de mettre ça en œuvre parce que c'est en moi. J'ai des dons et il faut que je fasse bénéficier l'Église de mes dons. Alors, c'est faux. C'est faux. Un don est quelque chose qui est donné. Vous voyez, on ne fait pas dans la grande philosophie, là. Un don, c'est quelque chose qui est donné. Et quelque chose qui est donné vient du dehors. Vient du dehors. Peut-être qu'il y a des gens qui se donnent des dons. Mais ça, ça parle plus de leur isolement que d'autre chose. À chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du Christ. Là encore, nous avons souvent une conception erronée de cette chose. Nous voyons les dons dans l'Église comme des espèces de petits paquets cadeaux, comme on en reçoit chacun individuellement à Noël, par exemple. Alors, j'ai mon petit cadeau, et vous avez votre petit cadeau. Et n'est-ce pas ce qui se passe dans tant d'Églises? Moi, mon don, c'est de faire telle chose. Moi, mon don, c'est de faire autre chose, et ainsi de suite. Or, l'apôtre, ici, ne parle pas du tout de cela. Il parle du don de Christ. Et il explique cela par une citation du psaume 68. Christ, ayant accompli sa mission de racheter l'Église et ayant été exalté, élevé, a fait des dons aux hommes. C'est le don de Christ. Le don de Christ est ce salut qu'il donne parce qu'il a racheté un peuple. Ce salut, dans sa dimension communautaire, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est le fruit de son œuvre. Ce corps où chaque membre grandit. Grandit dans l'unité. Comment chaque membre grandit-il? En recevant le don de Christ. Et chacun en reçoit la mesure que la grâce de Dieu lui accorde. Si on prend l'analogie d'un bâtiment, alors c'est plutôt dans l'ancien temps, mais le sage architecte n'allait pas utiliser des roches plus friables, plus tendres, pour mettre dans le fondement. Là, il fallait le granit, il fallait les roches qui ne sont pas, qui sont puissantes. Parce que tout le reste de l'édifice repose là-dessus. Et donc, la sagesse de l'architecte se voyait dans ce qu'il avait donné, ou dans ce qu'il avait, les caractéristiques de ces pierres qu'il utilisait. S'il mettait le granit en haut, et bien entendu, tout le reste allait ployer, comme parfois on voit. Donc, c'est cette sagesse de Dieu, et chaque pierre dans l'édifice reçoit selon la mesure que la grâce de Dieu lui accorde. Et ici, Paul donne une liste de ce qu'il a donné aux hommes dans ce cadre particulier. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive de dons. Il y a plusieurs autres endroits dans la parole de Dieu où nous voyons d'autres dons qui ne sont pas mentionnés ici. Ici, en fait, il y a très peu de dons. Et les dons que Paul mentionne ici concernent tous le soin et l'enseignement des croyants. Dieu a donné à son Église ce qu'il faut pour sa croissance, pour la croissance de chacun de ses membres. C'est pour ça que Paul se limite à ces dons-là, à ce point-là. La croissance, de par sa définition, indique le passage d'un état d'immaturité à un état de maturité. Comment le croyant mûrit-il? En étant conduit et enseigné. Et on a ce vieux mot, paître, hein, ceux qui paissent, dit Pierre, l'Église de Christ, l'Église du Seigneur. Et c'est beau parce que ce mot paître inclut à la fois l'enseignement, la nourriture, la protection, et tout ça dans le cadre de l'amour. C'est donc en étant conduit et enseigné que le croyant grandit. L'Église est l'agent de la croissance du croyant. Alors, on va laisser de côté ce matin les spécifications de ces dons. Vous savez, quand vous parlez de ce passage-là, tout de suite, il y a des gens qui vont se lever et dire « Quelle est la différence entre un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur ?» On va laisser ça de côté maintenant. On peut en discuter une autre fois, c'est assez intéressant. Surtout que la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc laissons de côté cela. Focalisons-nous sur le fait qu'il s'agit d'une grâce, qu'il s'agit de dons. Ils ne sont pas là pour nous glorifier. C'est quelque chose qui nous est donné. Et si ça t'est donné, pourquoi est-ce que tu t'en glorifies? Pourquoi est-ce que tu en tires gloire? Un don est un don. Ce n'est pas le produit de ma propre capacité ou de mon intelligence. Et ça, il faut qu'on se le martèle sans arrêt. Un don est un don parmi d'autres. Il a été donné à chacun selon la mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas ma sagesse qui détermine la qualité de mon don, la force de mon don, la prééminence de mon don. Pas du tout. Pas du tout. Un don est donné dans un but que détermine le donateur. Ces réflexions nous ouvrent de multiples applications pour remplir notre rôle dans l'Église et elles permettent de commencer à nous mesurer à la norme biblique. Mais à quoi servent ces dons? C'est notre deuxième sous-titre ici, le service. Le service, le ministère, comme il est dit dans certaines versions, le service. Si on regarde ce qui se passe parmi les hommes, on peut penser que les dons servent à se faire valoir. C'est quelque chose qui sert à ma propre gloire. Pour la Bible, c'est quelque chose de complètement différent. Les dons que Christ déverse sur son Église servent au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, du service, et de l'édification du corps de Christ. Et Paul va même jusqu'à, dans un autre passage, il va même jusqu'à dire, si personne ne peut interpréter ton don que personne comprend, c'est même pas la peine de l'exercer. Parce que ça n'édifie personne. C'est le but d'un don. L'édification du corps de Christ. La croissance du croyant vient de l'Église, au travers des dons que Dieu a faits à chacun des membres de son Église. Ainsi, le jeune croyant apprend à connaître plus intimement qui est Dieu et qui lui-même est, grâce à l'enseignement qui est donné dans cette Église, un enseignement biblique. Et il apprend à se connaître, il apprend à connaître le Seigneur, ce qui est en fait la somme de la connaissance. De bébé, il devient enfant, et puis jeune homme, et puis père. Il y a cette croissance dans la maturité. Mais à mesure qu'il grandit, ce qu'il reçoit s'exprime au travers de la grâce qui lui a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et Dieu lui a donné précisément ce dont ce croyant a besoin pour servir, c'est le ministère, et édifier le corps tout entier. Alors, on a tendance à penser au don en termes d'enseignement, comme l'enseignement didactique, l'enseignement public. Mais par exemple, le Seigneur va envoyer dans son Église des gens qui souvent sont ravagés par la vie, ravagés par la religion. Et ils ont besoin qu'on passe du temps, qu'on les soigne, qu'on éprouve beaucoup d'amour, de patience envers ces gens. Ça, c'est un enseignement qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin d'apprendre ces choses-là. Alors que si Dieu envoyait que des théologiens aguerris dans son Église, ça deviendrait quoi cette Église? Ça deviendrait simplement une foire d'empoigne. Ça deviendrait un aéropage où on discute de choses nouvelles sans arrêt. Mais non, il envoie. Alors vous voyez, les dons que Dieu fait à son Église ne sont pas toujours des dons qui sont sensationnels. Non, il va envoyer des gens qui ont des besoins, par exemple. Et c'est à l'Église de répondre à ces besoins. Dans ce sens-là, des besoins spirituels, des besoins des fois même sociaux. C'était juste une petite parenthèse parce qu'on a trop tendance à considérer ces dons comme des dons qui publics. Pas nécessairement. Non. Mais Dieu donne précisément aux croyants ce dont il a besoin pour que tout l'ensemble grandisse. Et c'est là qu'on voit des fois on passe par des épreuves terribles qu'on ne comprend pas. Et souvent, on ne les comprend pas parce qu'on se centre sur soi-même. Alors qu'il est possible que ce Seigneur me fasse traverser un moment terrible pour l'édification de toute l'Église. Moi y compris, d'ailleurs. Ce sont des réflexions qui sont intéressantes. Parce que la question se pose, tous sont-ils enseignants? Non! Mais à chacun est donné. Donc ce ne sont pas simplement les enseignants qui ont quelque chose à donner. Mais ils ont quelque chose à donner, s'ils font leur travail. Le croyant de par lui-même ne peut servir à rien dans l'Église. Mais Dieu lui donne la grâce, Dieu lui donne les dons qu'il veut pour que ce croyant participe, selon le dessein de Dieu, pour lui et pour le corps, à la croissance de l'ensemble. Et c'est vraiment fantastique comment une telle perspective donne une certaine noblesse à chacun des membres, une certaine importance à chacun des membres. Dans l'Église, mes amis, parmi les rachetés, on ne peut se passer de personne. Et je me souviens, ce pasteur qui expliquait comme quoi il avait un diacre qui était une personne impossible à vivre. Et alors, des années plus tard, quand il en parlait, il remerciait le Seigneur pour cet homme impossible à vivre. Alors, il y avait des caractéristiques comme ça. Par exemple, ce pasteur avait tendance à aller aux réunions du conseil. Vous savez, où les anciens et puis les diacres sont ensemble. Alors, il y allait comme ça, une petite pensée avant d'y aller. Il préparait, griffonnait sur un bout de papier. Et puis, bon, de toute façon, c'est les affaires normales, hein, on fait comme d'habitude. Mais il savait que ce diacre serait là et allait lui poser toutes les questions gênantes auxquelles il n'avait pas pensé et allait le mettre dans une situation difficile. Donc, qu'est-ce que ce pasteur faisait? Eh bien, il préparait cette réunion. Il essayait d'imaginer tout ce qui allait, qui n'allait pas. Et ainsi de suite. Et des années plus tard, il réalise comme quoi le Seigneur a mis ce diacre impossible à vivre là, de façon à ce que cet homme puisse faire son œuvre de pasteur. Alors, c'est une petite... Ce n'est pas pour encourager les gens à être des diacres impossibles à vivre. Mais quand même, vous voyez comme quoi la pensée de Dieu est différente de la nôtre. Et tout ça, c'est une très belle image. Vous que Dieu a appelé à conduire son peuple, par exemple, est-ce que vous arrêtez parfois pour tout simplement contempler la merveilleuse tapisserie que le Seigneur est en train de tisser? En fait, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que des fois on s'arrête pour méditer et dire, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous? Il nous apporte, il nous amène d'arrière-plan tellement différent, de cultures différentes même parmi nous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et on regarde dans le passé, comment est-ce qu'on a pris conscience de certains besoins, de certaines déficiences peut-être, et donc d'un besoin de faire attention. C'est merveilleux ça, c'est presque un parfum, c'est indescriptible. Il y a besoin de s'arrêter pour contempler cela. Et cela veut le faire, ça vaut le coup de le faire parce que le cœur se réjouit grandement. Le cœur se réjouit grandement. Est-ce que nous passons du temps à louer Dieu pour chacun d'entre nous? Et c'est là qu'on voit les multiples dons que Dieu a donnés à son peuple, même des fois que des choses qu'on ne classifierait pas comme dons. Et ces dons se manifestent dans toute la beauté d'un arc-en-ciel de grâce, en fait. C'est ça, hein? C'est l'Église fait partie, c'est le centre de l'Alliance. Et ne laissons pas ces couleurs qui ont été détournées pour signifier l'abomination. Non, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est l'Alliance de grâce. C'est l'Alliance de grâce, et cela se voit dans l'Église. Il y en a qui ne peuvent pas enseigner, même si on mettait le pistolet sur leur temple. Et heureusement qu'ils n'enseignent pas. Mais ils ne sont pas inutiles. Loin de là. Loin de là. Chacun accomplit son service. Il sert à la croissance de tout le corps. Donc vous voyez, l'agent de croissance pour le croyant, c'est l'Église. Mais c'est le croyant qui est l'instrument pour cette croissance. Il sert à la croissance de tout le corps. Si monsieur Intel saisit enfin ce que vous avez enseigné dans votre sermon, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez été plus clair dans votre prédication, par exemple. On peut faire l'application pour d'autres aspects de la vie d'Église, mais c'est peut-être parce que, dans sa grâce, Dieu a béni les prières de tel frère que l'ignorance de son frère affligeait. Alors, le Seigneur va utiliser la parole, souvent la parole annoncée publiquement, mais le carburant qu'il utilise, si je peux dire, c'est peut-être les prières de quelqu'un dont on ne sait même pas qu'il prie ou qu'elle prie. C'était Spurgeon qui mentionnait ça, n'est-ce pas? C'est assez connu, si vous lisez un peu de Spurgeon, vous trouverez le passage. Et ce ministère croisé de l'Église et du croyant se poursuit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à ce qui existe, et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que je connais le Fils de Dieu parfaitement? Donc j'ai encore du travail à faire. Personne n'est laissé derrière, et le but est cette union avec Christ dans la vérité, comme on l'a vu au tout début. Et quel est cet état? C'est la mesure de la stature parfaite de Christ. Lui qui a accompli parfaitement et totalement ce qu'il était venu faire, nous adresse la vocation de faire la même chose. Bien entendu, on ne peut pas accomplir l'expiation, c'est fait. C'est fait. Mais nous pouvons faire parfaitement, à la mesure de Christ, ce qu'il nous envoie faire, qui est quoi? De faire de toutes les nations des disciples. Et donc vous voyez comme quoi la croissance de l'Église, la chose qui doit focaliser l'attention de l'Église, mène à son rayonnement dans le monde. C'est ainsi qu'au lieu d'être sans cesse ballottés comme des enfants, nous serons fondés, enracinés pour retirer toute la nourriture de Christ et pour croître à tous égards en celui qui est le chef, recevant la force, recevant la nourriture du chef, de la tête. Et une telle Église, mes amis, est un solide assemblage. C'est harmonieux et c'est en pleine croissance, c'est rempli d'amour jusqu'à la plénitude de Christ. Voilà la croissance de l'Église dont parle Paul ici. Et je vous invite à revenir à ce passage et à le méditer, à le rouler sous la langue, comme on pourrait dire, à faire sortir tout le bien qu'il y a là. C'est un passage d'une très grande richesse et qui nous donne aussi une très grande responsabilité. Que le Seigneur se plaise à nous enseigner avec sa parole et qu'il se retire une grande gloire de tout cela. Amen.